Bonjour et bienvenue à Pacte Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby, et je suis très content d'être là avec tous mes potes pour parler un peu de rugby, parce qu'il y a beaucoup de rugby en ce moment. Donc numéro 1, c'est le premier deuxième ligne, il s'appelle Charlie Bayer de Massy Central. Salut Charlie.
Salut TK, numéro 1, j'adore, ça flatte mon ego, c'est fou. Deuxième ligne, j'ai eu la chance de pousser à ton derrière pendant une saison ou deux. Et maintenant, on est ensemble sur ce podcast. Je suis ravi de vous retrouver en visio aujourd'hui.
Oui, exactement. Alors, notre deuxième ligne, anciennement de Racing 92, c'est Théodore de Saint-Rémy.
C'est ça. On ne le présente plus. Il est là, fidèle au poste.
Et notre pink croquette à nous, c'est Alban Borel.
Hello la team, ravi de vous retrouver, toutes de rose vêtues aujourd'hui pour faire honneur à mes chers amis du Stade français qui ont gagné leur match ce week-end et à mes chers amis EIE qui ont elles aussi gagné leur match ce week-end.
Tout de suite, on commence à être désagréable d'entrée, j'ai compris.
C'est cadeau.
Allez, on va parler de tout ça un peu plus tard. Pour démarrer, quelqu'un a nous laissé un joli petit review sur Apple, n'est-ce pas Alban?
Tout à fait tiqué. Je vous partage une belle découverte sur Apple Podcast qui vient de Marie BZH, la Bretagne RPZ. La Bretagne est là pour nous remercier. Une belle émission avec des gens respectueux et ouverts d'esprit, ça fait du bien, nous dit-elle. Marie, nous te remercions nous aussi pour ton amitié et surtout ton commentaire très, très sympathique. Nous sommes très ouverts d'esprit, sauf parfois en off. Du coup, on ne met pas nos vrais propos, surtout ceux de Charlie. Mais en tout cas, nous sommes...
Je savais que ça allait me tomber sur la gueule.
On est ravis de faire vivre nos voix, de faire entendre nos voix dans cette chère contrée bretonne qui est une belle terre de rugby désormais, qui commence à être un vrai bastion du rugby.
Mais tout à fait, avec notamment Van qui, si tout se passe bien, sera peut-être en top 14 l'année prochaine, hein, je vous signale. Avec entrée sur le stade au son de la bombarde qui n'a rien à envier aux cornemuses des Écossais. Donc, allez le RC Van, ce serait top qu'il monte. Voilà. Et pour toi, Thierry, qui ne sait pas ce que c'est que BZH, donc BZH, c'est le résumé de Braise, qui est une sorte de manière de dire Bretagne en breton. Et pour te dire à quel point les Bretons sont fiers de ça, ils ont, pour refuser l'envahissement de l'ami américain, ils ont inventé le Braise Cola pour éviter de boire le Coca-Cola,
voilà.
Mon cher ami américain.
Le BZH. Voilà. Maintenant, je comprends tout. Merci beaucoup. Bah, j'apprends avec le rugby. J'apprends le français avec le rugby. C'est très bien. Bah, parfait. Bah, je sais que tout le monde vient à cette émission pour parler un peu de Major League Rugby. Tout ce que je vais dire, LA, Guilty Knees, ils sont invaincus. 6-0. Ouais. Bon, on arrête avec ça. Tout de suite aux Six Nations des femmes.
Parenthèse courte, mais nécessaire.
Voilà. Tout de suite aux Six Nations pour les femmes. En fait, on a eu un Six Nations un peu raccourci. Bon, bien sûr, au Covid et toutes ces choses-là. Mais on a pris plaisir de regarder nos Bleus en train de gagner les deux premiers matchs. Donc avec Charlie, dans notre dernier épisode où c'était un entretien avec Miguel Fernandez, un agent, c'était super intéressant. On a parlé de ce première victoire de l'équipe de France contre Pays de Galles, 53-0. Le deuxième match, c'était contre Irlande et on a quand même marqué 56 points, donc c'est une très très bonne chose. Donc notamment Caroline Boujard qui a marqué 5 essais dans ses deux premiers matchs. Et ce dernier match, le final contre l'Angleterre, bah, c'était rugueux. Contre l'Angleterre, ça finit 10-6, mais quand même c'était un sacré plaisir de regarder ce match vraiment vraiment sympa, très très engagé sur les deux côtés. C'est bon, on va dire un match avec beaucoup de cœur.
Oui, beaucoup de cœur avec malheureusement une victoire du coup anglaise, je dirais pas en dépit du match parce qu'elles ont plutôt mérité, elles ont été plus calmes que les Françaises qui se sont un petit peu affolées. Ça m'a rappelé un peu les Français dans les années 90 quoi. Voilà, c'est on s'excite, on joue plutôt mieux, on domine, on est dégoûté à la fin et paf, good game, les Anglais qui disent que c'était super. Voilà. Mais t'as perdu quand même. Donc c'est très très frustrant. Et je trouve que d'une certaine manière, ça raconte un peu aussi l'histoire du rugby féminin qui a 20 ans de retard sur le rugby masculin. Et on le voit dans ces matchs-là, qu'elles perdent alors qu'elles pourraient les gagner. Et on le voit aussi dans l'écart qu'il y a avec certaines nations dans lesquelles ils n'ont pas 20 ans mais 40 ans de retard. Il n'est pas très, très normal de mettre 50 points deux fois de suite et puis d'aller batailler in extremis sur le dernier match. Donc, c'est ce qui est un petit peu dommage encore sur ces compétitions, c'est que le niveau n'est pas très homogène. Et c'est vrai que ça, on note là une différence, en particulier quand on voit le tournoi des équipes de garçons à part avec l'équipe d'Italie, avec, on l'a fait, on l'a souligné plein de fois, des matchs extrêmement serrés entre les nations qui se valent. Voilà. Donc quand il y a 50 grains, il y a un peu moins de plaisir quand même, même si c'était sympa pour les Françaises, et même si ça a validé les premières sélections, comme tu l'as dit, il y a plusieurs filles qui ont marqué pour leur premier match, et ça, c'était super.
Ouais, pour moins de plaisir pour toi. Moi, personnellement, j'aime bien regarder tous ces belles essais par les Bleus, là. Je trouvais ça superbe.
Oui, mais il manque un petit côté de... Il manque cette dramatique qu'on aime bien, quand même.
En France.
En France.
Je suis d'accord avec toi, Tiquet, j'aime bien le beau jeu et ça fait plaisir de voir des beaux essais déroulés. Mais c'est vrai, Théo, t'as raison sur un point, c'est qu'on a encore cette hétérogénéité au sein des groupes, et je pense qu'il s'est encore plus accentué là dans le format du 6 Nations cette année, parce qu'il était très différent, il était raccourci, donc il y a aussi moins de confrontations, et il y a quand même vraiment deux pilules bien mises comme il faut, on peut le dire comme ça, par les Françaises à leurs adversaires.
Non, mais, c'est joliment dit.
Et c'est vrai, moi qui fais que l'émission n'est pas assez respectable.
Et pareil pour les Anglaises, alors que moi, tu vois, je m'attendais à un France-Irlande, Irlande-France plutôt un peu plus disputé pour le coup. Et en fait, les Françaises ont quand même largement dominé. Et c'est vrai que le match qu'on attend toujours dans un 6 Nations féminin, c'est le crunch. Tu vas venir dans le masculin aussi, mais on va dire que le vrai enjeu, il est dans ce match-là. Et je trouve que cette année, les Françaises ont été beaucoup plus combatives, beaucoup plus bien meilleures dans des zones de conquête vraiment très importantes, qui étaient la mêlée et la touche, ou alors les Anglaises étaient vraiment très nulles, mais elles ont été surdominatrices en mêlée, comme je crois elles l'ont rarement été, et ça faisait vraiment plaisir à voir, quoi. Le défi physique était clairement au rendez-vous. Après, voilà, moi je reste toujours un peu sur ma... J'ai l'impression d'avoir souvent cette même analyse quand on parle des crunchs, c'est que les Françaises donnent tout leur cœur, mais presque parfois oublie un peu la tête, c'est-à-dire qu'on voit des Anglaises beaucoup plus, tu le disais, beaucoup plus calmes, presque réfléchies sur leur jeu, à savoir que là, ok, il y a un gros vent là qui va passer, qui n'est pas pour elles. Elles ont mal commencé leur match, elles ne font pas non plus une très belle performance, mais elles finissent par gagner à la fin du au coup de sifflet final. Sans avoir fait grand-chose, mais en ayant maîtrisé leur partie d'une certaine façon, alors qu'elles avaient quand même... pas entamé grand chose, donc on peut reprocher quelque part.
Bienvenue dans les France-Angleterre masculins des années 90, voilà. quand t'étais dans ta poussette et Charlie rentrait au CP.
Je pense que les années 2010 aussi, non ?
Nous.
Ouais, on s'en souvient. C'est ça, et du coup, il y a aussi un peu un manque de lucidité parfois dans certains choix de jeu, et l'envie est presque trop débordante, et on en oublie un peu les quelques éléments clés qui te font gagner ce genre de match, et c'est dommage, mais bon, après ça montre aussi une certaine une capacité de résistance face à des grosses équipes comme ça, mais on n'a pas encore franchi l'étape de se dire les Anglaises sont dans un mauvais jour, on va les prendre et on saura les prendre et avec la manière, quoi.
Moi, tant que je vois Safi Ndiaye rentrer dans les intervalles,
elle, c'est la star.
Elle me fait rêver. Sa fille, si tu nous écoutes.
Elle provoque les intervalles, en fait. Elle est géniale. En faisant des gros trous à la place de là où il y avait des défenses, du coup, il y a un intervalle qui se crée.
Elle
est géniale.
Mais tu dis, Alban, que les Anglaises ont un peu raté leur début de match. La deuxième mi-temps n'était pas leur meilleure mi-temps.
Non, c'est clair.
Donc, c'était un peu... Mais moi, ça fait un peu penser à une finale de top 14, en fait, parce que c'est le genre de match où il y a des gros impacts, où tu te dis que sur le terrain, ça doit piquer pas mal, mais où l'évolution du score est un peu... n'est pas une belle promo pour l'enjeu du rugby, quoi. En effet, c'était super, super fort. J'ai trouvé les Françaises très, très fortes sur la conquête. Il y avait aussi un point crucial de cette finale pour moi, c'était les ratés, hein. Enfin, on a Émilie Scarratt, pour laquelle on ne fera pas de jeu de mots, qui a eu du mal à rentrer une pénalité. Hey, t'as vu, sous-entendre.
Merci. Je l'ai, le jeu de mots.
Et donc, Scarratt a foiré 6 points au pied. Côté français aussi, on a loupé un peu de points au pied. On a loupé une pénalité en première mi-temps. Le score, c'est, je ne sais plus exactement si c'est ouvert à ce moment, et j'ai vraiment l'impression que ça a été le cas, mais il a fallu quand même attendre la dernière minute de la première mi-temps pour voir le score évoluer, avec Popikli, la 8 anglaise, qui a violemment bousculé nos défenses pour finir à l'essai anglais. Mais du coup, il y avait une espèce de torpeur un peu, donc cette absence d'évolution du score, c'est loupé au pied, c'était vraiment torpeur. Il y avait, je ne sais pas si l'enjeu était trop fort pour elle, ça restait une finale, ou bien justement, comme ce que vous décriviez tout à l'heure, le fait d'avoir affronté avant des équipes où il y a eu des 50 pions qui sont passés de partout, à la fois pour les Anglaises, à la fois pour les Françaises. Peut-être que du coup, il y avait un gros enjeu pour ce match, et peut-être qu'elles ont été prises par cet enjeu. J'en veux pour preuve à la fin, à la 72e, quand il y avait une pénalité à jouer pour la France, où il y a une grosse hésitation à aller chercher les 3 points ou aller chercher la pénale touche par rapport au temps qui restait et ce qu'il fallait chercher. Et le temps que le tir arrive, parce qu'on a réclamé les 3 points, finalement, il y a un changement d'avis, ils veulent finalement y aller à la pénale touche, mais c'est trop tard parce que le tir arrive. Et tu sens que c'est, voilà, que c'est pas très, comme vous disiez tout à l'heure, les Anglaises étaient plus froides, réfléchies en tout cas. On gardait leur sang-froid. Là, les Françaises, on a bien vu sur ce genre de petits phénomènes qu'il y avait peut-être, que peut-être il y avait trop d'excitation sur l'enjeu, ou peut-être de trop d'envie de jouer, ou d'aller vite, ou d'accélérer, alors que quelquefois, faut faire comme les Anglaises et être un peu plus reptilien. Voilà.
Est-ce que pour ce Six Nations, déjà, c'était joué un peu différemment? Normalement, c'est joué dans les mêmes même époques que des garçons. Moi, personnellement, j'ai bien aimé d'avoir ça à part. Je ne suis pas sûr si vous
d'avoir
vous
une finale, tu veux dire?
Mais non, je veux dire que les matchs se jouent en même décalé. Temps de Six Nations.
Ah oui,
là,
oui.
D'être en décalé, qu'est-ce que oui. vous avez pensé de ça?
C'est-à-dire qu'on a dû, nous on a du mal à regarder tous les matchs quand ils sont tous en même temps quand même déjà.
C'est ça.
Non mais c'est vrai que c'était bien d'avoir cette fenêtre dédiée au rugby féminin. Après c'est vrai qu'il y avait des, enfin le fait qu'il n'y ait pas tous les matchs les mêmes week-ends, je pense que ça, il y a eu 2-3 semaines où au final on n'a peut-être pas regardé tous les matchs parce qu'en fait c'est pas des nations qui nous intéressent, alors que sur un week-end, bon, t'as peut-être tendance à regarder un petit match par-ci, un petit match par-là. Donc, c'est voilà, le format de cette année était très spécial. Mais moi, je suis d'accord avec toi que le timing, le choix du timing dans le calendrier est peut-être assez intéressant.
Tout comme Alban, le décalage parfait, le format, non. À part, bon, on est toujours plus excité par une finale qu'un match lambda, mais je trouvais que c'est dommage de ne pas affronter toutes les équipes.
Pour moi, perso, j'étais très content de retrouver cette équipe parce que déjà, ça faisait 6 mois qu'on ne les a pas vus de l'année dernière. Et franchement, on a vu Bané qui, chaque fois qu'elle court, elle a l'air extrêmement fâchée. On a vu la jeune gazelle Boujard qui était nominée, je pense, joueuse du tournoi quand même. Donc ça, c'est vachement chouette. Les 2 deuxièmes lignes et bien sûr, le préféré de presque tout le monde sur l'Internet, c'était Rose Bernadou. Donc bravo Rose.
Qui a fait un très gros match, ouais.
Ouais, super.
Gros tournoi.
En fait, c'est le seul. On dirait qu'elle prend un immense plaisir à manger des roses, quoi. Elle était vraiment contente de te plaquer tous ces Anglais. Ouais. Bon, il faut quand même parler de ce mini crunch, je veux dire le crunch 2, qui était un peu raccourci quand même. Ça a bien démarré avec beaucoup de plaquages, mais beaucoup de déchets aussi. Comme tu as déjà dit, Alban, des belles récompenses au niveau de mêlée gagnée. On a marqué vite, on a marqué dans les premières 10 minutes. Ça, c'était super sympa, mais on voyait. On était très vite sous pression, avec pas mal d'erreurs de notre part, notamment Jesse Tremaillard qui a fait plusieurs en avant assez surprenants. Le 11 anglais, donc elle ne s'appelle pas Ebidou, mais c'est Abidao, please. Okay, Abidao. C'est Abidao, Ebidou, c'est pas mal. Elle a mis son doublé, elle a fait un course qui a mystifié tout le monde. Je pense que tout le monde l'a arrêté. Et en fait, au mi-temps, même si c'est nous qui étions vraiment plus forts, c'est eux qui gagnaient. On n'a pas pu profiter d'une supériorité numérique. À la fin du premier mi-temps, il y avait un peu cette idée de manque de sang-froid. Il y avait des coups de pied un peu partout. Donc, en fait, finalement, au deuxième mi-temps, c'est une chance de pénalité. 17 à 15, il y a un petit bagarre, il y a un carton jaune, il y a un peu de tout. Il y a le capitaine anglais qui aime bien parler au arbitre. Grosse défense de notre femme. Et bam, qu'est-ce qui arrive à 22h30 pile? Apparemment, dans le Nord, on éteint les lumières, même s'il y a encore 20 minutes à jouer. Donc, ça fait un tout petit peu amateur quand même. Les Anglais, ils ont dit non, on ne veut plus jouer, on risque des blessures, et c'est intelligent parce que c'est eux qui gagnent. Donc l'arbitre a dit, très bien, c'est votre choix. Et après 15-20 minutes, le match est déclaré fini. Donc dommage.
Non, ça rappelle un fameux OM Milan AC en Ligue des Champions, quand là aussi les plus jeunes de ce podcast n'avaient pas encore l'âge de regarder la télé. Dans les années, au début des années 90,
on ressort des archives,
où
là.
En Ligue des Champions, il y avait eu un arrêt de lumière et où Franz Beckenbauer, qui était à ce moment-là plus ou moins manager sportif de l'OM, etc., était intervenu. Il y avait tout un sketch. Bon, c'était il y a 30 ans, quoi. Donc, les gars, à un moment, le mec qui appuie sur le bouton parce qu'il rentre chez maman ou qu'il a mal garé sa bagnole et qu'il éteint le stade. Non, c'est pas possible. Et je trouve que c'est aussi hyper significatif et hyper insultant de dans quelles conditions et comment on traite le rugby féminin. Je veux dire, est-ce qu'on peut imaginer que la lumière du Stade de France s'éteigne, quoi ? Non, non. C'est... Donc, au-delà de l'anecdote et du côté un peu débile, quoi, ouais, ouais. Je trouve que ça questionne aussi et ça dit des choses sur la manière dont on traite ce sport encore. Ok, c'est un sport encore minoritaire, mais là, le stade... De Fédéral 8 avec pas assez de lumière, non, c'est honnêtement, c'est pas jouable. Je suis pas très content.
Ouais, non, on peut clairement parler de vrai fiasco. Et alors, l'enjeu autour du match était encore, je pense, à décupler certaines choses aussi, parce qu'on est quand même sur une défaite, bon, on vient de le dire, mais très, très petite défaite face à l'Angleterre. On a une occasion de se rattraper une semaine après chez soi, il y a quand même 17-15, donc on est quand même sur un match très très serré encore une fois. Et là, bam, donc je pense que les filles, au-delà d'avoir un match qui s'arrête en plein milieu, c'est un match où elles sentent qu'elles peuvent gagner la victoire. Enfin voilà, c'est encore pareil. Et tu te dis, putain, mais les Anglaises, elles font tout pour, pour être sûres de remporter ces matchs. Et non, et clairement, le symbole, tu l'as dit, il est catastrophique. Parce qu'en plus de ça, la Fédé avait annoncé un blackout sur les réseaux sociaux en solidarité d'un mouvement qui a été déclenché au UK pour arrêter de communiquer pendant tout le week-end pour soutenir les causes antiracistes et surtout la violence sur les réseaux sociaux qui bien sûr n'ont pas leur place dans le sport, que ce soit en ligne ou sur les terrains, mais tu vois, la symbolique était, voilà, c'est juste catastrophe, quoi. C'est double blackout et là c'est terrible.
C'était très sympa de retrouver cette équipe de France, ça c'est sûr. Et là, il y avait quand même beaucoup de rugby ce week-end parce que c'était le demi-finale de, j'aime bien dire Heineken Cup, mais apparemment, j'ai pas le droit, mais c'est les Guinness Six Nations, mais c'est le Heineken Cup, ça marche pas, je comprends rien. Bon, c'est des European Rugby Champions, je pense.
Coupe d'Europe, ça marche.
Ouais, c'est la Coupe d'Europe, faisons simple. Make it simple,
Thierry. Ok. Mais quand même, il y avait plein d'équipes de France, donc ça, c'était la bonne nouvelle. Donc, pour le premier match, je vais faire ça très vite. Premier match, c'était Toulouse-Bordeaux. Et voici mes notes. Bordeaux contre les Galacticos de Toulouse avec des arrières de fou. Ils marquent d'abord des Bordelais, ils ont l'air d'avoir une très bonne défense. Mais la belle équipe de Toulouse revient avec quasiment deux levels avec Lebel, qui après un joli claquette de Maxime Madard marque le premier essai. Donc il faisait super match avec beaucoup de pluie et beaucoup de ballons glissants, des câlins un peu musclés. Jalibert y va vite, mais Dupont aussi. Les deux équipes ne sont pas tranquilles, comme il dit Mr. Barnes. J'étais un peu surpris que je ne me suis pas endormi et faire le petit sieste. Mais tout doucement, le soleil sort un peu pour Toulouse. 14 à 6 à 72 minutes, un autre essai de Dupont, le follower, c'est 29 à 9 et voilà Toulouse en finale.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? C'est très bien résumé. Non, ce que j'ai noté moi, c'est que en dépit de la défaite, Bordeaux a fait un match tout à fait présentable. Ils ont cédé sous la pression avec deux super essais du Stade Toulousain, parce que le premier essai, tu dis la claquette de Maxime Médard, elle est quand même mythique. Petit 4 deb de Baptiste Lebel qui a quand même des cannes de feu, donc c'est génial. Et puis l'essai que met Antoine Dupont, qui part d'une chandelle récupérée par Chelsea Colby de manière complètement acrobatique. Quelques belles passes à nouveau et puis une remise intérieure sur Antoine Dupont. C'est deux actions de classe qui sont extrêmement méritées. Et donc, de ce fait-là, je trouve que le Stade Toulousain mérite complètement sa victoire. Maintenant, c'était un peu tristounet. Et ce qui m'a surtout frappé, moi, c'est quand même le talent de Mathieu Jalibert. Et je me demande si, quand même, il n'est pas en train de devenir le number one. Parce que là, c'était confrontation directe avec Romain Ntamack. Et je trouve que sur les mois, et alors l'histoire n'est pas terminée, mais sur les semaines et les mois écoulés, et sur cette confrontation-là, je le trouve meilleur. Il attaque la ligne d'une manière extraordinaire. S'il n'est pas là, son équipe n'est pas du tout la même. Alors, ils ont perdu, mais moi, je trouve que Jalibert a fait un match exceptionnel. Et donc, peut-être qu'ils auraient mérité mieux pour ça.
Oui, oui, non, mais c'est... Voilà, je te rejoins, Théo, sur cette analyse. C'est vraiment dommage que l'UBB n'ait pas su prendre le pas sur ce match-là. Après, honnêtement, moi, je regarde... Ça fait plusieurs fois que vraiment, je regarde de A à Z tous les matchs de nos chers amis toulousains. Et je dois dire qu'ils ont... une capacité offensive qui est juste incroyable, quoi, avec des à la fois des gestes techniques et de la vitesse qui s'est renversée n'importe quel match. Mais très contente de voir les Toulousains à nouveau en finale, je crois 10 ans après leur dernier titre, pour une finale franco-française.
Et Pita Aki aussi, Aki, qui fait un
très,
match
très gros match, ouais.
C'est
un joueur discret, mais c'est un joueur très discret, et c'est marrant, mais c'est vraiment le genre de premier centre qui est parfait dans son rôle, gros défenseur qui va fixer toute une défense.
Énorme match.
Qui fait en plus un très très gros match, ouais.
Alors dimanche, on avait La Rochelle contre Leinster. Il a fait beau. La Rochelle, ils ont un défense sublime. Ils encaissent environ un essai par match. Donc ça va être très testé contre les Irish. Dans les avant, donc il y a Hurley, Furlong, Ryan. Pour les arrières, c'est le reste de l'équipe d'Irlande, quoi. En plus, il y a une actrice, Rose Byrne. Cet arbitre, sa tête me dit quelque chose, peut-être des mauvais souvenirs. 5 fautes dans les premières 7 minutes et un carton jaune pour La Rochelle. Donc essai logique pour les Irish. Les choses rentrent en plus ou moins, avec un pénalité et un joli drop, même à 14. Des pénalités échangées, on est 15 à 14. Et là, ça commence à rouler côté jaune, surtout pour la deuxième ligne, Skelton. D'abord, un essai par l'ami Adrit, suivi par un super effort de Skelton pour marquer un sublime essai. Et là, c'est final complètement français.
Ouais, final 100% français. Surtout, je dois avouer, j'avais vu le quart de La Rochelle, c'était très plaisant et ça joue beaucoup. Et de toute façon, les voix en top 14, ça joue beaucoup, c'est formidable. Mais autant je leur prêtais plein de qualités, autant quand j'ai vu leur adversaire, j'étais pas sûr qu'il y ait une finale 100% française la semaine d'après, quoi, parce que Leinster a beaucoup impressionné sur ce tournoi. Enfin, c'est, je dirais, le score du match et même le physionomie du match reflète pas trop. N'est pas très flatteuse pour le parcours de Leinster, quoi. En gros, La Rochelle m'a vraiment impressionné quand ils étaient vraiment beaucoup plus offensifs. En effet, quand ils se sont retrouvés à 14, comme tu l'as dit, il y a eu très rapidement, quand ils ont joué à 14 contre 15, très rapidement, ils ont perdu des points, mais ils ont su bien gérer cette partie-là en limitant la casse avec ce drop. Et jusqu'au bout, ça allait être partout, c'était super impressionnant. Et à la fin, vraiment, il y a eu la moitié de la seconde mi-temps, vraiment un moment où j'ai l'impression que le Leinster a un peu décroché. Mais à la fin, c'était la furie. Le Leinster n'existait plus face à cette équipe sur laquelle je n'aurais pas parié sur la victoire avant le match. Ils m'ont beaucoup impressionné et j'ai vraiment hâte de voir ces deux équipes offensives, en fait, ces deux équipes très portées sur l'offensive et sur les lignes arrières aussi dont tu parlais avec Toulouse-Alban. En finale, j'ai vraiment très envie de voir cette finale.
Ouais, Charlie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le Leinster n'était plus là à la fin, mais le mérite en revient quand même à cette équipe rochelaise qui a forcé le destin d'une manière magnifique. C'est vraiment un superbe match, je trouve. C'est à regarder même en replay pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que d'abord, en face, tu as l'équipe d'Irlande, à 3-4 mecs près. Donc, il faut savoir quand même que les provinces irlandaises, leur objectif de l'année, c'est la Coupe d'Europe. Et c'est des mecs qui jouent en équipe nationale et en Coupe d'Europe. Le reste du temps, ils font 4 matchs dans l'année. Ils n'ont pas de top 14 à côté. Donc, c'est plus que l'objectif de l'année. C'est leur championnat, quasiment. Donc, venir les taper comme ça, alors qu'ils ont effectivement une équipe au complet, ils ont pas d'absent, alors que le début de match est à l'avantage des Anglais, carton jaune, des Irlandais, carton jaune, essai des Irlandais, et là tu te dis, La Rochelle sont arrivés en demi-finale, c'est bien qu'ils soient arrivés jusque-là, mais là ça y est, la machine va se mettre en place, ça va être très compliqué, et pas du tout, les Rochelais rentrent dans le match, peu à peu recollent, le petit drop de Yaya West est extrêmement précieux. Ça me rappelle le fameux drop de Titou la maison en Coupe du Monde dont on a parlé ensemble. C'est non, on est là. Non, vous n'allez pas prendre le large comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Et puis, la deuxième mi-temps, on ressent ce que le Leinster, je trouve, nous a fait ressentir bien des fois, et le Munster aussi à la grande époque, ce côté inexorable de possession qui ne change jamais de main. Et en fait, le Leinster défend, mais tu te dis... ils vont craquer un moment, c'est pas possible autrement, parce que La Rochelle avait tous les ballons. Et là-dedans, tu as eu des individualités complètement au-dessus du lot. Pierre Bourgarit, le talonneur, qui fait un match mais stratosphérique en attaque, en grattage et en défense. Et puis alors, Will Skelton, c'est le char d'assaut, quoi. Le mec, il fait effectivement 2m3 et 140 kg. mais il n'a pas arrêté de leur rentrer dedans. Il marque un essai en fin de match, alors que les mecs qui ont ces gabarits-là, honnêtement, 50, 60e, au bout d'un moment, le juillet plus, quoi. Et lui, tout le match, il a pesé, pesé, pesé. Donc, honnêtement, le rugby, ces matchs-là font aimer, je trouve, le rugby. C'est quand on voit des matchs comme ça, on peut qu'aimer ce sport. Et vraiment, chapeau à La Rochelle. Je ne sais pas ce que ça donnera en finale. Le côté franco-français, c'est un peu à double tranchant. On est un peu tristounet qu'il n'y ait pas une petite confrontation avec une équipe britannique. Et en même temps, on se dit, bon, de toute façon, la coupe à la maison, c'est sympa aussi. Donc, je trouve qu'il y a deux manières de voir le truc. Mais quel match! Vraiment un match fantastique.
Oui, donc le 22 mai, il y aura Toulouse à La Rochelle. Quand même un super première ligne de Toulouse contre un troisième ligne de folie de La Rochelle. Vous mettez votre petit billet sur qui, les gars?
Difficile à dire. Hein. Les deux équipes sont magnifiques. L'expérience est du côté du stade toulousain, évidemment. Mais voilà, je pense que le match qu'a fait La Rochelle en demi-finale montre que cette équipe n'a peur de rien. Et donc, ils ont, avec cette demi-finale, je trouve, acquis de quoi faire de la finale un match très ouvert. Parce que honnêtement, ils n'étaient pas favoris, ni sur le papier, ni sur les bookmakers, ni nulle part. Et deux, le match n'a pas démarré comme il aurait dû. Donc, pour eux. Donc, franchement, très difficile. Mais allez, moi, je vais peut-être mettre un petit billet sur La Rochelle quand même.
Je pense, je mets un petit billet sur Toulouse en honneur à UG qui a quitté le top 14 d'une façon très triste. Et du coup, je parie sur le Toulouse.
Les confrontations franco-françaises en Coupe d'Europe, elles ont rarement débouché sur des matchs très ouverts. Donc, c'est pour ça que je disais que là, c'est quand même très prometteur quand tu as vu leur dernier match. Mais tu parles, Théo, de leur demi-finale qui est en effet monstrueuse. Mais est-ce que finalement leur exploit ne sera pas été d'avoir sorti de Leinster et ils auront peut-être moins les ressources mentales en finale, ou est-ce qu'ils vont surfer sur cet exploit? Je ne saurais dire. Moi, j'ai envie de... je préfère toujours le underdog au big dog. Et c'est vrai que Toulouse a une superbe histoire avec l'Europe, hein, qui date peut-être un peu maintenant, mais ils ont quand même leurs 4 titres et c'était bon avant l'ère du Leinster, quoi. Mais j'aime bien cet enthousiasme de La Rochelle. J'ai aimé, ouais. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais à la fin, que tu vois que tu avais du monde au balcon, aux fenêtres, que les joueurs sont partis vers les abords du stade pour célébrer avec les supporters qui avaient fait le déplacement quand même, qui leur avaient fait un accueil de dingue. Mais tout ça et cet enthousiasme pour La Rochelle et des Rochelais, et j'irai avec toi et je mettrai mon petit billet sur La Rochelle.
Très bien.
Émotionnellement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Charlie, parce que je pense qu'il y a quelque chose avec cette équipe de La Rochelle, de façon qui se regarde, qui se soutient. Et je trouve que c'est une belle histoire aussi, parce que La Rochelle, il n'y a pas longtemps, c'était pas connu pour moi dans le rugby. Donc, l'effet qu'il soit là.
Histoire en Pro D2.
Ouais, et avec des super joueurs français aussi, et bien plein de super internationaux, mais d'un peu partout. Mais franchement, ils ont l'air de vraiment être une équipe soudée. Et c'est ce que je vois sur l'écran. Et peut-être, je ne sais pas, parce que j'ai un petit truc pour cette équipe, mais ouais, j'aimerais bien aller voir victorieux. Allez.
La solidarité n'a jamais fait gagner un match. Hein.
Ça serait, sinon.
Are you sure? Surtout au rugby.
Franchement, ça va.
Allez,
quoi.
Si on parlait d'un autre match de top 14, parce qu'apparemment, c'était le... C'est pas le crunch, ça s'appelle comment quand il y a Racing contre Stade France?
Le derby.
J'ai pas vu ce match. Alors, qu'est-ce qui se passait? Qui a gagné ce match?
Franchement, c'était un super match, mais je vais laisser Charlie et Alban commencer. Ah. Parce que comme ils ont gagné, honneur au vainqueur.
C'est très généreux de ta part.
Pour commencer en intro, il faut savoir qu'il y a quand même une stat assez intéressante autour de ces derbys franciliens, comme on les appelle. C'est que l'équipe qui se déplace remporte souvent le match. Je ne sais plus depuis quand, mais je crois que depuis ces quelques deux dernières saisons, chaque fois l'équipe qui se déplace remporte le match.
C'est donc un peu c'est à toi, moi.
C'est parce que le déplacement n'est pas très long, donc du coup, il y a juste le temps de se dégourdir les jambes et c'est bon, c'est chaud. ça fait échauffement, quoi.
C'est peut-être ça, ouais. T'as raison.
honnêtement, je dois avouer que j'étais assez surpris par l'entame de match des Parisiens. Comme on parlait tout à l'heure, tu disais, ça se saurait si la solidarité faisait gagner un match. Je pense qu'ils ont fait preuve de beaucoup de solidarité, les Parisiens. Et je pense que ça s'est joué aussi peut-être là-dessus, c'est que y avait la volonté pour le Stade français d'aller chercher une place dans les dans les six premiers pour éventuellement... En gros, là, on perdait. La saison était... Il n'y avait plus grand-chose à aller chercher dans cette saison. Donc, je pense que ça a servi
C'était quasiment un match de phase finale.
C'est ça, exactement. Donc, je pense que ça a servi de, moteur. Là, le Stade français m'a beaucoup impressionné. Après, je pense que le Racing a quand même... moi, j'ai vu le Racing reprendre un peu la main vers la fin de match. Et je dois t'avouer que je n'étais pas des plus sereins à la fin. Et il y avait un truc
c'est
dans...
C'est beau l'honnêteté.
Bah, c'est vrai. Et surtout que...
Je suis ému. J'ai pleuré.
Là, je suis sûr que c'est de l'ironie encore.
C'est un grand sentimental, Théo.
Bon, ça va parce qu'on est dans le camp de ceux qui ont gagné. Mais c'est vrai qu'on avait dit qu'on en parlerait, Théo, de la fin de match. Mais c'est vrai qu'il y a eu un grattage un peu... disons que je serais Racing, j'aurais un peu le seum, quoi. Voilà,
un peu sévère
de ce petit grattage à la fin.
Bon, est-ce qu'Alban a autre chose à dire?
Non, mais on en a rapidement parlé, mais c'est vrai qu'une entame de match, un 16-0, déjà dans ce genre de match, tu peux difficilement espérer une remontada comme c'est on connaît. Et encore, je suis d'accord avec toi, Charlie, on n'est pas passé loin de. Les Racingmen se font pénaliser sur un dernier ballon, mais qui aurait très facilement pu finir derrière les poteaux. Donc voilà, il y a un manque de maîtrise sur le début du match. Les Parisiens, je pense, ont été assez opportunistes sur quelques actions. Et ça fait le game. Les changements, je crois, du Racing ont quand même largement changé la physionomie du match. Et je pense, in fine, que honnêtement, le Racing, je pense d'un point de vue niveau, même sans Ficou, aurait peut-être pu gagner le match. Avec Ficou, bien sûr. Ficou, ça reste le meilleur joueur parisien. Mais voilà.
Ça y est, vous avez fini?
Allez, bon, on a envie de prolonger un peu, mais vas-y.
Non. Ce que je trouve, c'est que si on comptait les points de panache, le Racing aurait gagné quand même. Parce que je rappelle qu'il y a quand même 4 essais pour le Racing, un seul pour le Stade. Donc, OK, c'est un jeu dans lequel les points au pied comptent et sont inscrits sur le tableau de marque. Mais Joris Segond, il enquille tout. Top, très bien. L'essai du Stade français, c'est quand même un essai casquette. Parce que c'est un ballon à moitié dégueulé, un coup de genou dans le ballon, etc. Enfin, c'est vraiment pas de chance. Le Racing, sur ce coup-là, a vraiment pas de chance. Et en fin de match, quand effectivement ça semble plier et qu'à la 80e, le Racing amorce cette remontée de terrain, ils font 75 mètres sans perdre le ballon. Et je trouve... Mais c'est pas là qu'ils ont perdu le match, donc il n'y a aucun scandale là-dedans.
Ça méritait un point panache.
Franchement, l'arbitre siffle un peu vite. C'est vrai que Luke Jones arrive un peu sur le côté, il est déséquilibré, il dit qu'il tombe. 4 fois sur 5, c'est pas sifflé cette faute-là dans le courant du jeu. Donc, il le siffle, ok, admettons, d'accord. Mais c'est pas là que le Racing perd le match. Le Racing perd le match avec une entame catastrophique. Une première mi-temps où il touche pas un ballon en conquête et en touche en particulier. Et 0-16 dans des matchs en jeu, sauf miracle, tu reviens pas. Donc, ils viennent mourir à pas grand-chose. S'ils avaient marqué à la 80e sur cette remontada qui honnêtement a fait vibrer tout le monde, je pense que tu sois du Stade français ou du Racing, là tu te prenais les mains dans la tête en disant putain mais ils vont pas le faire. C'était un truc de fou. Dommage, vraiment dommage pour le Racing. Je rappelle aussi que le Racing a quasiment une équipe à l'infirmerie. Sur le banc, il y a beaucoup de monde. Camille Cha, Vakatawa, des joueurs régulateurs notamment en touche. Le troisième lignel, merde, dont le nom m'échappe.
Tu parles de Gaël Ficou en troisième ligne?
J'aimerais bien poser une petite question. Donc, peut-être c'est old news maintenant, parce que ça fait quelques semaines que c'est déjà apparu cette histoire de Ficou qui arrive à Racing.
Moi, j'ai rien compris.
Je ne comprends pas pourquoi c'est une polémique, en fait. Donc, parce que, en fait,
Que c'est en cours de saison, c'est naze.
Ouais, mais si c'est déjà moi pour si l'équipe dit bah toi on veut plus de toi, t'es trop cher, et après c'est comme si je suis en CDD et mon employeur me dit bah en fait bah finalement je veux pas te renouveler, bah et tu peux chercher ailleurs parce que c'est pas illégal, et l'autre équipe qui vient me chercher, bah ok.
Mais là c'est ton côté américain, là nous on est des sentimentaux, ouais. On t'a déjà dit, Thierry.
mais il a raison en soi. Il y a eu un vrai... Je pense qu'il y a eu un gros loupé dans les communications, parce que je pense que côté Stade français, on a un peu exagéré certains propos qui n'étaient peut-être pas tout à fait légitimes.
Honnêtement, je suis supporter du Stade français, mais moi, je pense que c'est encore notre cher président qui a loupé une occasion de...
Ster.
De moins parler. De Ster. Grosso modo, il me semble en plus que le Stade français voulait d'abord voulait se débarrasser de Ficou parce que, enfin, par un calcul très simple et que je peux comprendre au niveau. Mais c'est eux qui ont ouais. mis le prix qu'ils pensaient légitime. Mais quand tu faisais un ratio prix et match joué, c'était vraiment un enfin c'est complètement un trou dans ton budget. Je comprends qu'ils veuillent le changer, donc ils ont changé. Ficou, dans ses premières déclarations en plus, expliquait que lui aurait préféré rester avec ses copains au moins finir la saison, enfin que ça venait pas vraiment de lui, c'est juste qu'on lui a dit voilà quoi, il faut libérer de ça semblait être un accord un peu commun au début, mais une fois qu'il est parti, bah c'est là où Hans-Peter Wild a un peu trop dit, a un peu trop fait ses calculs justement, qui peuvent être vexants pour un joueur, parce que quand on dit ouais, mais en fait il nous coûte tant par match, je sais plus comment il était arrivé à son
150 000
par match, ouais. Évidemment.
Oui, c'est totalement con. Mais... quand tu vois que c'est le mec qui te fait gagner les matchs que tu aurais pas pu gagner.
Non, mais que ce soit pour gagner ou pas, en fait c'est très con, parce que de toute façon, même si ce raisonnement est vrai, c'est lui qui a fixé le prix. Donc voilà, c'est lui, il savait qu'il était international, c'est pour ça qu'il est le chercher. Bon bref, et en fait derrière ça, c'est un peu, je pense, à coup de déclaration envenimée, mais il y a jamais eu de moquerie. Hein. C'est juste qu'il y a eu un moment, je pense que Ficou en a eu ras le bol de se dire attends, mais on me fait passer pour le connard alors qu'au début tout allait bien et que je devais juste partir. Et il y a eu aussi des joueurs du vestiaire, le vestiaire parisien, qui ont pris sa défense en disant enfin bon. Voilà, d'ailleurs, il y avait une image à la fin du derby qui était assez mignonne, où Ficou qui allait serrer les paluches dans sa tenue flambant neutre du Racing. Il y a d'autres joueurs qui s'amusaient à le faire chier avec des drapeaux du Stade français comme
oui.
ça.
Oui, c'est bon enfant.
Qu'il était pas trop loin. Mais voilà, je pense c'est complètement bon enfant. C'était ça prouve bien que les vestiaires. S'il n'y a pas eu de scission vestiaire, c'est que tu vois bien que clairement, Ficou, c'était juste une mauvaise déclaration déplacée d'un président. Et je pense que. Ça a fait marrer Lorenzetti, mais c'est son jeu et c'est le président qu'il est aussi. Ça l'a fait marrer aussi un peu de charrier là-dessus. Et ça n'a pas aidé à garder les têtes froides, je pense. Mais pour le coup, c'est une bonne guerre. Quoi. C'est rien de...
Oui, donc voilà un peu de top 14. Théo, est-ce que tu peux nous dire où nous sommes globalement? Parce qu'il y a les barrages qui arrivent bientôt.
Oui, eh ben écoute, on a en fait un top 6 qui se dessine, mais pas complètement fermé, avec Toulouse et La Rochelle qui caracolent un peu en tête, donc je pense que ce sera les deux demi-finalistes, surtout que La Rochelle a encore un match en moins, est à 67 points et Toulouse à 72. Derrière, on a les quatre suivants qui sont a priori installés, qui vont se battre pour y rester, Clermont, le Racing, Toulon et Lyon. Et puis, Lyon qui est à 57 points, est quand même talonné d'assez près par Castres à 55, Bordeaux-Bègles à 53 avec deux matchs en retard, et le Stade français à 53 aussi, mais sans match en retard. Donc, ça veut dire que, grosso modo, Castres, Bordeaux-Bègles et le Stade français ont encore une chance d'accrocher le wagon des 6 en faisant sortir de là Lyon, voire Toulon sur un malentendu, mais Toulon ayant un match de retard aussi. Bon. Et en bas, Agen, qui a quand même marqué 2 points cette année. Je suis désolé, je suis obligé de le noter. Et juste au-dessus, Pau à 36 points, qui peut-être se sauver encore en allant accrocher Montpellier ou Bayonne, qui sont à 40 points. Mais Montpellier ayant 2 matchs en retard aussi, ça va être dur. Voilà.
Tiens, question par rapport à ça, parce que je vois sur le truc, il y a Agen qui a un certain couleur, il y a Pau qui est orange. Mais ça veut dire quoi cet orange? C'est Agen qui va le reléguer, non?
Non, ça veut dire effectivement que Pau est barragiste, parce que le 13e de top 14 joue le finaliste, ce qu'il appelle le finaliste de Pro D2, c'est-à-dire le match, le gagnant de 3-4 contre 5 et 5-6. Le gagnant, ils jouent ensemble, après ça va affronter le 13e de top 14.
T'as celui qui est premier de Pro D2 qui monte. Et celui qui est deuxième de Pro D2 après une sorte de petit match qualificatif machin joue un match de barrage contre le 13e du top 14.
Ah ok, je savais pas.
C'est exactement ce que j'ai dit.
Bon, merci pour ces clarifications.
Mais ça, c'est encore des concepts qui échappent totalement à Thierry, puisque je rappelle qu'aux États-Unis, les montées et les descentes dans les ligues fermées qui veulent se partager le gâteau, ça n'existe pas. Ça nous permet de faire un petit clin d'œil à Heineken, qui a vanné les mecs du foot qui ont essayé de privatiser la Ligue des Champions en faisant une ligue fermée. Et ils ont fait une pub en disant « Don't drink and start a league », ce que je trouve quand même assez drôle. C'est-à-dire, ne démarre pas une ligue quand t'es bourré comme un cochon. Et j'ai trouvé que c'était pas mal, honnêtement.
Ouais. En fait, c'était assez drôle parce que j'ai écouté des podcasts en anglais par rapport à ça, des trucs de basket et de foot. Mais en fait, ils ne comprenaient rien. Ils disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais c'est pas fermé déjà, en fait. Ils ne comprenaient pas qu'il y avait ce système.
Ils hallucinent,
ouais, non, ils disent... non, mais c'est...
comment ça fonctionne. Mais qu'est-ce... Et c'était hyper intéressant d'avoir un autre Américain qui parlait à ces gens-là pour expliquer, bah non, en fait, tu peux descendre et tout. Et il se dit, ah bon, vraiment. Bon, bref. Charlie, est-ce que tu peux nous parler de notre prochain épisode, s'il te plaît?
Avec grand plaisir, mon ticket, puisque dans notre prochain épisode, on a un invité. Vous êtes, vous, habitué à ce qu'on ait des invités dans le pack de potes, mais moi, je ne suis pas habitué à leur poser des questions. C'était mon première interview, yay, avec mon ticket. J'étais très content. Et en plus, j'ai eu la chance d'être très à l'aise grâce à ça, parce que j'étais avec Jonathan Best, que vous connaissez peut-être, deuxième ligne et capitaine de Béziers, lui. C'est un joueur très connu de ceux qui suivent un peu les réseaux sociaux parce qu'il répond et charrie pas mal. Mais ce qui était très sympathique dans cette interview tout au long de notre conversation avec lui, c'est que c'est pas du tout le mec un peu provocateur ou un peu chambreur ou un peu comme ça qu'on a rencontré. On a rencontré un mec qui nous a parlé de son parcours, de son rapport au rugby, de son rapport au rugby amateur aussi, parfois, avec beaucoup de, j'oserais dire, de tendresse, parfois. Oui. Et ce n'était pas du tout le personnage qu'on pensait avoir. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Ticket. Ouais, mais en tout cas, c'était très intéressant. J'étais ravi de l'avoir comme premier interviewé. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte que vous puissiez tous l'écouter, l'entendre, dans 15 jours pour notre prochain épisode.
Ouais, super. Ouais, je trouve que bravo pour ton premier entretien, Charlie. C'était un plaisir de faire ça avec toi.
Oh là là, il prend les félicitations du boss.
Mais franchement, Jonathan Bass, franchement, charmant. Et je vous invite en ce moment d'aller le chercher sur Instagram ou Twitter. Et il fait un petit countdown parce que la fin de sa carrière, il est pour bientôt. Donc, il fait un petit countdown de ses derniers jours en train de jouer le rugby professionnel. Donc, en 2 semaines pour cet entretien.
Ouais, tu dis qu'il est charmant, je suis pas sûr que ce serait le qualificatif qu'utilisent tous les mecs sur qui il a marché pendant 15 ans, mais on en reparlera avec lui peut-être.
Je voulais parler rapidement de Recycling Rugby, nos amis, qui font c'est une association qui font des super sacs avec des ballons de rugby recyclés. En ce moment, ils sont en train de faire une action pour James Lassis, qui est en fait le deuxième ligne de Nice, qui s'est fait gravement blessé lors d'un mêlée très récemment. Donc, 100% des bénéfices des ventes des sacs de Recycling Rugby dans le mois de mai seront reversés à la cagnotte de soutien de James Lassis. Donc, rendez-vous sur la page Facebook de Recycling Rugby pour participer. Ils ont aussi maintenant un Instagram aussi, donc Recycling Rugby. On les félicite bien sûr pour cette action.
Et en parlant de réseaux sociaux, bien sûr, allez regarder les initiatives de Recycling Rugby, mais vous pouvez aussi laisser des petits commentaires et les likes sur nos prochaines publications. N'hésitez pas à partager les initiatives dont on vous parle et à partager nos contenus, nos épisodes. Plus on est nombreux, plus on rit.
Ouais, et puis sur les réseaux, il y a également un autre podcast ami qu'on aime beaucoup, n'est-ce pas Thierry? Un peu plus léger. Est-ce que tu l'es, toi, un peu plus léger? À force.
Je suis en ce moment, oui, c'est vrai. Donc, c'est un podcast que j'ai fait avec ma diététicienne qui s'appelle Fanny Coutin. Et c'est vrai que je perds un peu de poids, ça fait du bien. Je suis toujours première ligne, il faut être honnête, hein, mais peut-être un jour, je passerai à troisième lac. Donc, je serai super content. Donc, si vous aussi, vous cherchez à perdre quelques kilos, en fait, c'est une discussion en toute simplicité par rapport à ce chemin que je suis en train de vivre. Donc, voilà, c'est rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast. On est régulièrement dans les top 10 de nutrition, dans les podcasts de nutrition. Donc, je suis assez content à ce niveau-là. Donc, ça se passe plutôt bien.
C'est épisode sympa. Combien, Thierry?
Épisode 10 bientôt, cette semaine.
Ouais, pas mal.
Moi, j'ai toujours pas perdu de poids. Comment on fait?
Est-ce que t'as écouté un peu plus léger?
Docteur, j'écoute pourtant tous les épisodes, mais je n'ai pas perdu un gramme.
Docteur, j'écoute. C'est très inspirant. Non, c'est très agréable. Pour le coup, c'est très agréable d'écouter.
Merci, Alvin. Donc voilà pour aujourd'hui, les gars. C'était un vrai plaisir de vous retrouver. Allez, les gars, en 2 semaines. Ciao, ciao.
Salut tout le monde.
Salut, la bise à tous.
Bye bye.